C'est qui?
C'est un trou du cul, seigneur.
Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande.
C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major Trou du cul.
Et son cousin?
C'est un trou du cul aussi. Canonnier de première classe, Philippe Trou du cul.
Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais. Je suis entouré de trous du cul.
Feu à volonté, bande de trous du cul!
Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue à Men on Pause, épisode 26. Men on Pause, c'est votre podcast pop culture qui n'a pas de règles et qui n'a pas de calendrier non plus, car ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas enregistré de nouvel épisode. Mais on ne s'inquiète pas, la fine équipe est toujours là, avec quelques rides en plus. D'abord, Tannelir, comment est-ce que ça va?
Bah, ça va parfaitement, vous m'avez manqué les gars, et donc ça fait quand même plaisir de qu'on se sorte un peu les doigts du huc.
Provençal, est-ce que tu partages le même avis?
Ah oui, pareil. En plus, je voulais vous parler d'un jeu que j'ai commencé dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Skyrim.
Déjagore, est-ce que ça va?
Ça va très très bien, et je suis parfaitement aligné, surtout avec l'histoire du huc et des doigts. De manière générale, la combinaison me semble satisfaisante. Et toi, docteur? Comment ça va bien?
Bah écoute, ça va. Ça va, ravi de vous retrouver, même si j'ai pas trop senti le temps passer, parce que à part Men on Pause, je me cryogénise entre les épisodes, donc c'est comme si vous avez parlé hier. En tout cas, voilà, quelqu'un qui ne sera malheureusement pas cryogénisé et pas ressuscité, c'est notre ami Mathieu Perry. On a voulu un peu rendre hommage à Mathieu Perry pour cet épisode, qui nous a malheureusement quitté le 28 octobre dernier. Alors Mathieu Perry, bien sûr, c'était Chandler Bing dans la série Friends, qui a marqué des moultes générations entières. Donc ça sera un épisode consacré aux années 90, aux séries des années 90 plus précisément, qu'on va intituler « La liste de Chandler, générique ».
Avant de passer aux séries, docteur, j'ai une petite anecdote sur Chandler Bing, enfin sur l'acteur Mathieu Perry. Bizarrement, aujourd'hui, le youtubeur, comment il s'appelle, Y Penser, a sorti une petite vidéo où à la fin, il parle de Chandler Bing, du fait qu'il est décédé récemment. Enfin, une sorte de petit hommage vers la fin de sa vidéo. Et ce qu'il a mentionné, c'est que le gars, il était tellement bon dans ses punchlines, dans l'écriture de ses propres punchlines, parce que c'était pas les écrivains qui lui donnaient 100% du texte, c'est-à-dire qu'il improvisait. Il était tellement bon que les écrivains, les scénaristes, avaient recours à lui quand les punchlines des autres caractères n'étaient pas trop bonnes. Tu vois, la réaction n'était pas assez cool. C'est lui qui écrivait les punchlines des autres.
C'était le seul où il n'y avait pas de rôle de composition, en fait. C'était Chandler, c'était lui, quoi.
Ouais. Et non seulement il rehaussait le niveau des autres, en fait.
Mais tu sais, avant, c'était même pas lui qui devait avoir le rôle. Il était sur une autre série. Mais par contre, il donnait un coup de main à tous les acteurs qui passaient le casting pour Chandler. C'est lui qui donnait le coup de main et limite il leur faisait le boulot à la place pour les inspirer jusqu'à ce qu'à la fin il soit décommandé d'Addict la série. Et il a pu participer. Et il l'a eu sur le coup parce que clairement il avait un rôle d'improvisation aussi. Il y en a pas mal dans les épisodes qu'ils ont gardé de ses impros. Non, il était très fort.
C'est là, surtout quand tu revois la série, c'est clairement le personnage le plus intéressant, le plus marrant. Il avait du talent, quoi.
Bah, c'est celui qui a le plus d'arc narratif, en fait. Hein. Parce que bon, ouais. Rachel, son arc s'est fait assez rapidement, quoi. Au bout de la saison 3, saison 4, elle a eu un arc. Elle passait de la petite fille pourrie gâtée, tu vois, elle a un peu mûri, mais elle a mûri assez tôt dans l'épisode. Et puis après, c'était toujours l'histoire de Ross. Phoebe, elle est restée telle qu'elle. En fait, elle s'est rangée la dernière saison, elle s'est mariée, mais Phoebe, c'était telle qu'elle. Joey, il n'a pas bougé d'un poil. Alors que Chandler, il est passé vraiment du petit, presque d'un loser avec un humour bizarre à peut-être le personnage le plus mature et le plus raisonnable de la bande, quoi, à la fin, quoi. Je pense que c'est celui qui a le plus évolué dans la série en tant que personnage. Les autres, ils sont restés un peu fidèles à eux-mêmes. Ils étaient toujours autour du même sujet. Ross, il a un peu évolué, mais c'était pas autant que Chandler.
En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les personnages les plus raisonnables, les plus terre à terre, tu te rends compte qu'au fil de la série, en fait, c'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est Joey et Phoebe. Ça a l'air l'abruti et la farfelue.
Oui, c'est ça. Mais eux, ils ont pas bougé.
Ouais. Eux, ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là en fait pour ancrer le reste de l'histoire dans quelque chose de stable, de fixe, qui change pas. C'est rassurant toujours de voir Joey, de voir Phoebe dans leur délire, parce que les autres changent mais eux non.
Par moments, ils ont surtout Joey. Par exemple, je trouve qu'il a une certaine sagesse, une certaine pureté. Des fois, il a l'air con, mais il arrive parfois à faire passer l'intérêt des autres avant le sien. T'as l'impression qu'il est pas si con, c'est-à-dire que
non, il est pas. Enfin, il est très loyal. Ouais. Il est très loyal.
Voilà,
est
c'est ça. C'est...
Mais d'ailleurs, la saison 9, je crois, c'est la saison 9 et le début de la saison 10. Et les scénaristes, ils ont testé un truc qui a pas marché du tout. D'ailleurs, les fans étaient contre.
Ouais.
Ils ont voulu lui donner un rôle un peu plus romantique, plus sérieux, et le mettre avec Rachel, ça n'a pas marché du tout. Hein. Ils ont dû annuler
l'arc
narratif. Ça marche pas. Quoi. Ah non, c'est quasi de l'inceste, et puis ça ne marche pas. Ça ne marchait pas avec Joey. Quoi. C'était limite sacrilège avec Ross, mais ça ne marche pas avec son personnage. Ça, c'est quelque chose qui ne marchait qu'avec Chandler. Le côté Chandler-Monica, c'était un joli twist, mais c'est grave que quand tu vois le Chandler de l'épisode 1 et le Chandler du dernier épisode de la saison 10, le mec il a évolué comme étant presque le grand frère et le papa de tout le monde, quoi. C'est celui qui avait les répliques les plus, tu vois, avec le plus de morale, le plus de recul, le plus de bon sens et tout, tu vois. Donc ils ont fait un boulot d'écriture sur Chandler, je pense. C'est pour ça qu'il est un peu à part par rapport aux autres. Le Ross de la saison 10 n'est pas très différent du Ross de la saison 1. Hein. Pareil, hein. C'est toujours la boucle du mec qui divorce et qui est amoureux de Rachel, le mec qui divorce et qui est amoureux de Rachel, et ça a toujours été ça.
Ben voilà, c'est-à-dire qu'il a depuis que Monica et Chandler sont mis ensemble, tu vois, c'est une relation stable.
C'était une relation stable, mais qui a beaucoup évolué, tu vois. Ils lui ont mis déjà l'histoire de la relation, ensuite ils ont foutu le mariage, ensuite il y avait l'histoire de l'adoption, du gosse. Etc. Donc en fait, même au milieu de la relation, il avait plusieurs étapes à franchir. Alors que les autres, ils tournaient un peu autour de la même thématique. Donc c'est pour ça que je pense que Chandler, maintenant que j'y pense, je me rends compte de ça, quoi. C'était lui qui portait un peu l'évolution.
Si on te dit comme ça, pense à un couple dans Friends, le premier auquel je pense c'est Chandler et Monica. C'est pas alors que tu vois au début on nous vendait Ross et Rachel.
Ah ouais, bah c'est un couple qui s'est arrêté la saison 3, quoi. Donc pendant 7 épisodes où on nous faisait languir sur ce couple-là, alors que pendant ce temps-là, t'avais le meilleur couple qui était Chandler et Monica, quoi. C'était lui le vrai couple d'il y a de la série, quoi.
À partir de leur mariage, même la série se déroule chez eux. C'est lui qui prend la part.
Ah d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est Chandler qui conclut la série. C'est lui qui sort la dernière vanne avant de fermer la porte.
Je me rappelle plus de la fin, en fait.
La dernière vanne, enfin c'est la dernière séquence, c'est tout le monde qui rend les clés parce qu'ils quittent. C'est Chandler et Monica qui déménagent pour aller en banlieue. Parce qu'ils ont des jumeaux, donc ils quittent l'appart. Donc c'est la fin de la série, quoi. C'est le fait de quitter l'appartement. Mmh. Et ils avaient vidé l'appart. Et donc Chandler et Monica quittent l'appartement. Donc c'est la fin de la série. Avant de partir à leur nouvelle résidence, je pense que c'est Rachel ou quelqu'un qui te dit, Emma, est-ce qu'on a le temps de se prendre un café avant que vous partiez? Et t'as Chandler qui fait, bien sûr, where? Cut.
Ouais.
Et il ferme la porte. Donc c'est lui qui conclut, en fait. C'est même lui qui conclut l'épisode. Hein.
Enfin, c'est lui qui a porté presque à lui tout seul toute la série. Hein. Côté écriture.
À lui tout seul, non. Mais ce qui a donné le plus de rythme, c'était lui, quoi.
Ouais, c'était derrière, c'était lui qui aidait les autres acteurs, qui aidait les scénaristes et tout. Donc bon, il est pas responsable à 100% de tout.
Mon personnage préféré dans Friends, c'est Barney Stinson. non mais blague à part, c'est
un copier-coller.
Je pense que vous avez tout dit, mais justement, ce qui est marrant avec Friends, c'est que les personnages sont devenus des sortes d'archétypes, en tout cas dans la façon qu'on a d'analyser les sitcoms. À chaque fois, on se dit, est-ce que lui c'est plus un Joey? Même les gens, ils se disent, moi je suis une Monica,
c'est la référence.
Je suis un Chandler, je suis.
Ouais. Même phénomène qu'avec Sex and the City pour plusieurs.
Non, mais il y avait des sitcoms avant, il y avait Seinfeld, mais c'est vrai que Friends est devenu le truc étalon. Et souvent, tu dis, ce personnage c'est un Chandler, ou même en parlant de gens, hein, de l'entourage réel, tu dis, lui c'est Christian Chandler, ouais. elle aime ranger comme Sylvie Monica.
Ouais, c'est comme Donjons et Dragons pour les jeux de rôle c'est
devenu le standard, heureusement ouais. et malheureusement. Plus malheureusement qu'heureusement.
Seinfeld tournait quand même autour de Seinfeld, quoi. Les autres étaient des personnages secondaires autour de lui.
Parce que oui, Friends oui, a, oui, t'as raison.
A surtout que, lancé. Ouais. En fait,
ils ont six protagonistes. En fait.
Et ça fait une bonne transition pour après. Mais ce que Friends a surtout bien démocratisé, c'était le système de l'ensemble cast. C'est-à-dire qu'avant, les années 80 et début des années 90, t'avais surtout un personnage principal et des personnages secondaires qui gravitent autour de lui. Alors que Friends, le temps d'exposition était divisé par 6. C'était l'ensemble cast. Il n'y avait pas de personnage principal.
Sauvé par le gong, c'est plus ancien, il me semble, non?
Oui, mais sauvé par le gong, ça reste quand même Zach qui raconte l'histoire et c'est autour de lui. C'est même lui qui brise le quatrième mur pour parler à la caméra. Ouais. Donc Zach reste quand même le centre d'attention. C'est lui qui raconte son histoire. Alors que Friends, c'est les six, quoi. Il y avait ce côté ensemble cast qui a ensuite donné pratiquement.
Aucun d'eux n'a le lead, en fait.
Toutes les séries des années 90 ensuite qui ont marché, c'était ça, quoi, pratiquement. Du coup, ça fait une transition parfaite. Donc, nos hommages, Matthew Perry. Mais du coup, voilà, vu que c'est une série qui est emblématique des années 90, on va parler un peu de nos séries des années 90, de nos coups de cœur. On va parler aussi, hormis les coups de cœur personnels, quelles sont pour nous les séries qui sont les plus représentatives de cette décennie, qu'on pourrait vous recommander. Et puis on terminera, bien sûr, parce que ça mène à une pause et qu'on aime gueuler, par des séries, pas coup de gueule, mais en tout cas des séries qui nous ont fait chier ou en tout cas qui pour nous sont un peu over-hypées. On va commencer déjà par le coup de cœur. Alors, parmi ces messieurs, qui veut commencer à nous faire deviner son coup de cœur des années 90 avec un résumé pourri, avec un synopsis ou n'importe quel moyen de nous faire deviner son
titre. Moi, je veux bien commencer. Alors, c'est l'histoire de deux fonctionnaires. Une qui X-Files. Est un... Voilà.
Vas-y, continue quand même ton résumé pourri.
Non, mais c'est à peu près ça, c'est deux fonctionnaires, l'une qui est un peu trop coincée du cul et l'autre qui sous LSD. C'est à peu près ça, mais franchement, pour moi, X-Files, c'est une série qui référence pour moi. C'était ma porte d'entrée vers un monde de séries science-fiction que je connaissais pas trop avant. À part la série, j'ai lu beaucoup de bouquins qui tournaient autour, c'est-à-dire il y avait des bouquins qui se vendaient à l'époque, où c'était des explications de chaque saison. C'est-à-dire que tu regardes les épisodes et dans le bouquin, tu as les détails de ce qui se passe. Et pour moi, c'est...
C'est des romans ou tu...
Non, c'est des bouquins. C'est des bouquins, genre, format de poche. Et
assez fin.
Assez fin, ouais. T'avais le résumé de chaque épisode. Ouais. Et t'avais, après le résumé, des détails qu'il n'y avait pas dans... Tu vois, qu'on voyait pas. Genre, dans telle scène, tel personnage était caché autre part. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de détails. Et c'est l'une des premières D'accord. séries que... L'un des premiers univers que j'ai vécu pleinement, vraiment, avec la série et ce qui se passe derrière la série.
C'était sur 2M, d'ailleurs, non?
Et 2M, ouais. Il y a toujours... Pour moi, c'est le souvenir de 2M un lundi soir, si je me rappelle bien. Un lundi soir après les news. Non, c'était après les news.
C'était après.
Petite anecdote, Scully, c'était l'un de mes premiers crushs de
en fiction. Tu étais précoce.
Ah ouais, non mais... et j'adorais, en fait, j'adorais le pragmatisme du personnage de l'agent Scully. J'avais I want to believe de Mulder, mais je me retrouvais plus dans le pragmatisme un peu froid, un peu calculé de Scully.
Elle avait un côté détective beaucoup plus rationnel.
Ouais, elle était toujours dès que la meuf qui dit... Il y a Mulder qui vient avec une théorie de malade mental. Genre, ouais, c'est les aliens extradimensionnels qui ont kidnappé le président de Eddie. Et t'as Scully qui lui dit, ta gueule, mais ta gueule. Et l'épisode, c'est ça, en général. Jusqu'à ce que Scully commence un peu à...
Au bout d'un moment, elle est obligée.
Surtout que dans les films, elle tape carrément la discute avec des aliens. Hein. Dans les films, c'est full alien. Il y a plus de versions. Tu vois. Dans les films, c'est soucoupe volante, voyage interdimensionnel.
Ouais, mais ils ont maintenu le doute d'elle. Si Mulder voit vraiment des choses se passer, pas forcément Mulder, mais genre, est-ce que les événements de chaque épisode sont réels ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui est à l'origine de ce qui se passe? Ça, avec le mystère, ils l'ont maintenu pendant plusieurs saisons.
Ouais, elle était plus en mode Scooby-Doo, quoi. C'est genre, ouais, il y a forcément un homme vrai qui est caché derrière ce costume, quoi.
Sûrement, à l'époque, comme j'avais pas vu, je pense que j'étais pas arrivé au bout de la série, je pense qu'il y avait encore rien de clairement surnaturel. Donc du coup, c'est vraiment le côté mystérieux qui était développé.
C'était souvent fantastique, hein. D'ailleurs, la prémisse, c'était d'abord surnaturel, c'était la sœur de Mulder qui supposément s'est fait kidnapper, c'est ça?
Tout à fait, c'était sa version à lui qui était remise en question par beaucoup, en fait. Et même son souvenir était pas très clair. Tu te rappelles, lui, son témoignage, c'était des lumières, des trucs comme ça. Donc ça jouait petit peu sur le flou, j'ai envie de dire.
Enfin, surnaturel, oui, c'était surnaturel. Mais c'était pas très science-fiction. C'était plus fantastique que science-fiction, la plupart des affaires.
Après, ça a commencé à évoluer avec l'homme à la cigarette, les théories du complot.
Ouais, c'est
d'État.
Gorge profonde.
C'est...
En fait, ça a commencé à évoluer quand techniquement c'était faisable, quoi, en 3D. Que avant, les effets fantastiques étaient moins chers que les effets CGI, quoi, en télé.
Je vous jure, l'un des trucs qui m'a manqué le plus, c'est de sortir un truc du genre gorge profonde et voir la réaction de Déjà Gore direct.
Oui, c'est vrai.
Ta gorge profonde, t'as déjà des faits.
C'est vrai, il y avait ce personnage qui leur donnait des infos qui s'appelait Deep Throat, tout à fait. Et les amis, anecdote, l'homme à la cigarette, il a été un petit peu repris dans Mass Effect, vu qu'à partir du 2, le patron de Cerberus est un homme assis un petit peu dans la pénombre qui fume constamment une cigarette. Cette anecdote est vraie et complètement inintéressante, mais elle est gratuite en même temps.
D'accord.
Et si vous voulez une anecdote sur les univers partagés, alors est-ce que vous vous souvenez de la, comment il s'appelle, le personnage de John Munch ou dans la série New York Unité Spéciale?
Non, pas vraiment.
C'est le gars qui avait une tête un peu, on va dire, un peu à la Goebbels.
Un peu à la Goebbels. La référence.
Ouais, franchement, c'est...
La corpulence d'Himmler, la tête de Goebbels et la coiffure d'Himmler.
Non, quand même pas.
Et lui, il apparaît dans X-Files.
Il apparaît dans New York Unité Spéciale, enfin les séries là de Dick Wolf. Il apparaît dans Homicide, voilà. Il apparaît dans X-Files en tant qu'agent John Munch. Donc en fait, finalement, c'est une sorte d'univers partagé.
Ah, d'accord.
Bah faites une petite recherche, vous allez reconnaître sa tête. C'est le mec un peu plus âgé, il traînait souvent. Enfin, il était, je crois, en duo avec Ice-T.
Ouais, pour moi, X-Files, série culte des années 90, et pour moi, je pense, là, celle qui m'a marqué le plus.
Bah là, je vais spoiler un peu sur la deuxième catégorie. C'est là où j'avais mis X-Files, la série la plus représentative. Friends, je la mets un peu à part. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai revue peut-être 4-5 fois depuis. Mais X-Files, je sais pas si j'en parle maintenant ou on attend la prochaine.
Non, mais vas-y, on est sur X-Files.
Vas-y.
Voilà, vu qu'on est dessus. Pour moi, c'est la plus représentative. Parce que pour les gens, les gars de notre génération, je pense que c'est la première série, on va dire sérieuse, à laquelle on s'est intéressé. Parce que tout ce qui était à côté, c'était assez léger, divertissement. Il y a des trucs comme Twin Peaks, je pense qu'on était trop jeunes pour vraiment saisir l'ambiance, l'intérêt de la série. C'était au début des années 90.
Moi aussi, je suis d'accord. Pour moi, c'est mon truc de la série la plus représentative.
Parce que voilà, on était au collège ou au lycée, et tu vois, on kiffait ça sérieusement. Et je me rends compte qu'on était encore trop jeunes pour vraiment apprécier le truc.
Je sais pas si ça vous a fait pareil, mais pour moi, X-Files, quelque part, bon, pas que cette série, mais ça a ouvert plein de portes dans le monde de l'imaginaire, en fait. C'est à travers X-Files que j'ai pu explorer tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est fantôme et ésotérique. Entre autres, hein, c'est pas que, mais c'était un élément majeur de ce qui m'a fait apprécier tout ce qui est paranormal, si tu veux.
Ouais, mais même quand tu regardes même les séries de maintenant, quoi, quand tu vois les séries, que ce soit du Mandalorian, ou quand tu vois les Lost, ou là, les compagnies, je pense que X-Files, c'est la plus représentative, parce que je pense que c'est la première série, comme tu dis, qu'on suivait avec sérieux, mais qui a développé, en fait, tout un lore de fan theories, d'univers parallèles, d'études, de gens qui faisaient des, tu vois, qui parlaient de théories, qui décortiquaient les épisodes, où t'avais des œuvres un peu, qui développait l'univers étendu de X-Files, tu vois. En fait, les autres séries, tu les appréciais avant. En fait, tu touchais vraiment à l'univers étendu. Alors qu'avant, les séries, tu les appréciais pour... mais elle a développé, en fait, tout ce business... Enfin, c'est pas un business, mais...
C'est-à-dire là, on touche à la science-fiction sans effets spéciaux, sans clinquant. Ça suscitait vraiment notre intérêt. Si on suit. Et moi, là, j'étais tous les. Ça passait le lundi sur 2M, et tous les lundis, j'étais devant. Je sais pas, à 8h30, 9h, j'étais devant la télé, en attendant que ça commence. Je sais pas si vous souvenez du côté événement de la série quand elle allait passer. Parce que c'est un truc dont on entendait parler dans les magazines, je crois, des trucs comme Première ou les magazines.
C'est ce que j'allais dire. Jeunes. C'est vrai que.
Même dans les magazines de jeux vidéo, Player One, Joypad, etc. Tu vois, X-Files, c'était le phénomène à l'époque.
On l'attendait. Moi, je me souviens qu'on l'attendait. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle allait arriver sur 2M et c'était un événement qu'on attendait. En plus, ça donnait cette sensation de faire partie du monde. Tu vois, on était à jour avec le monde. C'était cool.
Oui.
Voilà, oui. C'est ça. Il y a vraiment de ça. Et en plus, je pense, à part pour des dessins animés ou des BD, des trucs comme ça, c'est la première fois que je me suis intéressé à des produits dérivés d'une série télé avec de vrais acteurs et tout. Alors qu'on n'avait pas ce... On n'avait pas ça avec le reste.
T'as de lire.
Avec
t'as
des
de lire.
Dessins animés t'as ou de des lire. Jeux vidéo.
Que tu aies eu un dossier X sur ton PC, c'est pas un produit dérivé. Et tu aies eu une X-File sur ton PC, c'est pas exactement X. Ça non, le concept.
C'est celui qui dit qui est.
Moi, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs pour réduire le risque sur plusieurs supports.
Non, mais c'est ce que tu dis. Mais en plus, c'était le premier qui avait des produits culturels dérivés. C'est-à-dire que je me suis tapé, je sais pas combien de fois, le jeu X-Files, il était sur 4 CD, sur PC. Il est sorti sur PlayStation et il était filmé. C'était un point and click où c'était tourné avec les acteurs, quoi. Mais t'avais le jeu X-Files. Je me suis tapé ça, je sais pas combien de fois. Il y avait la sortie du film. Qui était un événement aussi, qui était la suite de la série. Tu avais les romans. Donc, en fait, X-Files a créé tout le modèle en fait, de l'écosystème de l'univers étendu, quoi. Du MCU ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que ça existait avec X-Files. Avant, tu n'avais pas de romans ou de jeux urgence ou de jeux le cause Bichot, tu vois. Mais,
urgence, il y avait le jeu de rôle Grandeur Nature.
C'est ça. Auquel personne ne voulait jouer.
Mais X-Files, moi, à l'époque, je jouais à Magic the Gathering et dans le magazine Lotus Noir là, qui parlait de cartes. Des fois, ils te présentaient les cartes à collectionner X-Files. Et sur 2M, si vous vous souvenez, parfois, avant l'émission, on présentait un jeu concours, on pouvait gagner des romans ou je crois peut-être d'autres produits dérivés. Et ça, j'y participais. Tu vois, j'avais répondu correctement et tout. Je pensais que j'allais gagner. C'est après que j'ai réalisé que c'est un attrape-nigo où ils te faisaient payer, je crois, 10 dirhams. La minute ou une connerie comme ça.
Didi Ram à l'époque, c'est l'équivalent de 1500 dirhams aujourd'hui.
Non, quand même pas, mais ça doit bien être 50 balles.
Non, mais c'était tellement événement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense que c'était en même temps que la... D'ailleurs, ça devait être en 94, du coup. Mais le générique de Mark Snow, il était au Hit Parade à l'époque. Hein. Tellement le truc était... Il était premier. C'était juste après avec... Children, je ne sais pas si vous vous rappelez avec la chanson
de Robert Miles.
De Robert Miles, exactement. Et elle est sortie légèrement plus tard. Et était première aussi, tellement c'était événement.
C'est une série, il y avait tout. La musique était balèze, enfin le générique. C'est et même les images dire, du générique étaient. Tu vois, il y avait le côté vraiment Space. Mystérieux. Tu vois, il y a du Lovecraft, il y a du. J'allais dire Churchill, merde.
Mais il y a du Sherlock Holmes.
Le mec Sherlock Holmes. Il est en mode aléatoire.
Mais du Hitchcock, pardon. Il y a du Hitchcock. Voilà. Il y a un peu la cinquième dimension. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut synthétiser là-dedans.
Et il y a du Lovecraft dans le sens où X-Files, il te montre jamais l'étendue du danger. La menace, tu ne la vois pas forcément. Mais tu la ressens à travers tu ressens l'ampleur de ce que c'est à travers le jeu d'acteur de Mulder et Scully.
En fait, ouais, c'était...
Le sujet même de leur boulot est un MacGuffin, en fait.
Ouais. Et tu sais que tu tiens une série culte quand le générique est reconnaissable par tout le monde.
Quand le générique devient un mème.
Un mème, c'est le symbole de quelque chose de
bizarre.
De bizarre se passe.
De bizarre.
C'est devenu un symbole universel, quoi.
Parce que, comme tu disais, c'est le mélange du surnaturel avec une série d'enquête policière. Tu vois, t'as à la fois le côté... Parce que en termes de référence, t'as un moment de Sherlock Holmes, je trouve aussi. Tu vois, le côté chien de Baskerville, etc. T'as beaucoup de... C'est un peu Scully, hein. C'est ce côté enquête, parfois sur des choses un peu surnaturelles et chercher d'indices. Et à côté, t'as le côté super surnaturel. Donc, les fans de fantastique et science fiction était rejoint par aussi les fans de policiers et de séries d'enquête, quoi. Donc t'avais les deux mondes, quoi, en un. Donc c'est pour ça que ça a aussi bien marché, quoi. Ils ont trouvé une sorte de symbiose entre les deux genres qui ont fait que ça a créé une série culte, quoi. Que les autres, elles étaient cultes pour ce qu'elles étaient, mais elles n'ont pas généré un culte autour, quoi, où ça te donne envie même de lire plus de détails ou plus d'analyses de tel ou tel épisode, d'en apprendre plus, d'avoir des produits dérivés, etc. Donc ouais, clairement produit, enfin série représentative des années 90, parce qu'elle a donné le modèle même du cinéma d'aujourd'hui, quoi.
Qui se rappelle, petite question, qui se rappelle des Lone Gunmen dans X-Files? C'est donc les trois
geeks stéréotypes de nerds qui se décodaient, c'est ça? Mais voilà. Ils ont pris de l'importance au fur et à mesure de la série. Hein.
Ouais, bah ça a donné un modèle, un archétype de rôle d'ailleurs. Après, t'as toujours le petit geek qui décode pour Ethan Hunt sur Mission Impossible ou d'autres, ça a même donné un archétype spécial.
C'est vrai.
Ah ok, t'as nous lire, vu que t'avais rebondi sur le X-Files pour la série représentative, revenons sur ton coup de cœur.
Alors mon coup de cœur, c'est une série, j'ai un peu honte parce que c'est clairement pas, au niveau écriture c'est pas le top, par contre c'est vraiment l'aspect esthétique, l'époque qui me plaisait, sachant que j'étais féru d'histoire, d'antiquité, de Moyen-Âge, etc. Là c'est une série qui se déroule en antiquité avec deux nanas comme personnage principal.
Bien sûr.
Et je pense que vous avez deviné, ouais, c'est... Ouais, tu vois, je reconnais clairement que c'est pas la meilleure série de tous les temps, que c'était kitsch. Mais c'est une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque.
Zella la Guerrière, c'est un spin-off d'Hercule.
Oui, exactement.
Ouais, c'était un spin-off d'Hercule. Ouais.
Hercule qu'on n'avait pas eu sur 2M, je crois.
Si.
Ou bien plus tard.
J'avais regardé Hercule, moi, sur 2M. Mais j'ai plus regardé Xena que Hercule, en tout cas. Mais il y avait Hercule sur 2M. Mais je pense que c'était aussi la des cas où un personnage est devenu tellement populaire qu'il a eu son spin-off.
Ouais. Oui.
C'est l'un des premiers exemples produits par Sam Raimi.
Ouais, il y avait d'ailleurs son frère qui jouait dedans.
C'était le Gabriel de Hercule, le frère de Sam Raimi. C'était l'acolyte de Hercule. Non, pas du tout.
Non,
je confonds. Non, c'était l'acolyte.
Non, pas du tout.
C'était le.
C'est un gars qui faisait le guignol de temps en temps.
Exactement. C'était un NPC. C'était un NPC de Xena qui venait à chaque fois faire le guignol et puis. Donner un coup de main de temps en temps de manière un peu comique, quoi. Effectivement, ouais. Non, Xena, j'ai... Tiens, là, c'est une sorte de plaisir coupable, quoi. Je regardais parce que ça se consommait facilement. C'était 25 minutes, quoi, l'épisode. Et je l'ai préféré à Hercule.
Et en plus, Xena, c'était le genre de série qui en avait rien à faire. Ouais, rien à faire de l'histoire ou de la précision en mythologie. Non,
Xena, par exemple, je sais plus si j'avais essayé de revoir il y a quelques années, mais déjà, je pense que c'est difficile de trouver en bonne qualité. Et franchement, c'était pas top. Ça, par exemple, c'était clairement une série pour ados.
Non, mais c'est en carton. C'est une série en carton pâte.
Ah ouais,
tu peux pas la revoir maintenant, quoi. C'est typiquement destiné aux ados.
L'intro était stylée.
Tu dis quoi, l'intro était pas mal, ouais. Mais t'avais l'impression d'avoir quelque chose limite de légendaire. Et après, c'était presque du théâtre, quoi. Du théâtre en carton pâte. Mais c'était bien foutu, quoi. T'avais la patte de Sam Raimi qui était sympa. D'ailleurs, elle fait une apparition, Lucy Lawless, elle fait une apparition dans Spider-Man 1. À un moment donné, c'est l'une des personnes qui interviewer. Quand la séquence où t'as plein de gens qui sont interviewés par la télé, genre qui ont vu Spider-Man ici.
Oui, c'est vrai.
C'est une nana qui est tatouée.
J'ai même pas fait attention.
C'est une nana qui est tatouée de partout. Ouais, il y a un moment donné, tu vois une nana qui est tatouée de partout, avec des piercings dans tout le visage, et qui dit à un mec avec 8 bras, c'est excitant, c'est Lucy Lawless.
Ça, j'ai pas fait gaffe. Je vais essayer de revoir le film rien que
pour ça. Oui, c'est ça. Elle fait une apparition de 2 secondes.
Il y a Bruce Campbell qui apparaît évidemment dans les 3 films, mais Lucy Lawless, j'ai pas fait gaffe du tout.
Mais du coup, déjà, Gore, quel serait ton coup de cœur? Quelle serait ta description mystère pour nous faire deviner ton coup de cœur?
Alors pour moi, pour le coup de cœur, j'ai hésité entre 2 séries. Et finalement, j'en ai choisi une parce que c'est les règles. Et la deuxième, elle se retrouve en déception. Vous allez voir, c'est sûr, ça sera surprenant. Alors, la série, moi, mon coup de cœur, je vous explique, c'est pour une raison très subjective, c'est que c'est la première série que j'ai terminée. Donc, c'est la première série où j'ai le souvenir du dernier épisode. Ah, et de la tristesse et de...
Voilà. Donc, c'était une série du Ramadan, c'était Lala Fatima.
Alors non, c'était le Meloul Benoun. Alors, les gars, les événements se passent en 2018. Est-ce que ça vous aide ?
Les événements se passent en 2018.
Les événements se passent en 2018. C'est une série des années 90. Et dans les années 90, on imaginait 2018. On imaginait la Terre comme une planète sans ressources.
Red Dwarf.
Non. Et du coup... Alors non. Et du coup, pour survivre, les humains se sont regroupés en colonies au fond des océans.
Ah, SeaQuest !
Et oui !
Mais bien la sûr, police des mers.
C'est mais oui, le Star Trek sous-marin.
Eh ben celle-là, je l'ai pas
c'était vu. En 2018.
Ah, moi aussi.
Ouais, les événements, la série se passe en 2018.
Ah, mais d'accord, j'avais oublié ce détail.
Ah putain, le futurisme de l'époque, c'était quelque chose.
Effectivement, eux, ils sont dans un sous-marin qui se balade sous les océans pour les protéger. Et du coup, c'est la série fait que 3 saisons. Et c'est une série que j'ai vu en entier à l'époque en famille. Et du coup, j'ai le parfait souvenir du dernier épisode où vraiment je disais à ma mère, ouais, ça fait mariage, Josh. Et le dernier épisode, il est assez triste. Il se passe des événements plutôt dramatiques. Alors, ça se termine sur un petit cliffhanger. Je pense qu'ils étaient pas sûrs de pas revenir. Mais c'était sympa à l'époque. Ça faisait voyager, ça faisait rêver. Il y avait Roy Scheider qui tourne principalement dans l'eau, je pense. Sa carrière s'est faite dans la flotte, faut être honnête.
C'est ça.
Il avait fait Jaws. Ouais, c'est ça. Donc voilà, SeaQuest, franchement,
ça a
de bonnes notes.
Il a décidé de se renrôler dans la police des mers, parce que voilà, par traumatisme.
Mais oui.
Mais j'aimais bien, ouais, donc ça passait sur 2M, c'était le Stargate aquatique, quoi. Moi, j'ai bien aimé, quoi. Je l'ai pas fini.
C'était vachement sympa.
Mais quand ça passait, je regardais, franchement, c'était efficace. Non, très sympa, très sympa. Joli choix, mais je l'ai pas fini.
Trois petites saisons. Y a beaucoup de CGI dégueulasse, mais par contre, il y a un dauphin qui fait partie de l'équipe. Donc voilà, il y a vraiment des phases de communication humain-dauphin. Voilà, c'est tout. C'est pas vraiment l'argument, mais c'était un truc dans les années 90. Les dauphins, on était sûrs qu'ils allaient à un moment devenir hyper intelligents. Alors, on pensait que ça allait arriver un peu plus vite, quoi. Donc voilà, ça sera mon coup de cœur, tout à fait subjectif, le SeaQuest, la belle époque, la jeunesse, pas de soucis d'impôts. Voilà,
c'est et après ça. 3 saisons, c'est tombé à l'eau.
Bah du coup, c'est très très drôle ça. Bah du coup, il reste le docteur qui doit nous donner son coup de cœur des années 90, maintenant que les meilleures séries ont été citées.
Alors mon coup de cœur, bah pareil, hein, c'est pas forcément la meilleure série des années 90, mais c'est à peu près pour la même raison que Déjà Gore, même je pense l'avoir fini. Je suis pas sûr, ça remonte à loin. Mais en tout cas, je pense que c'est la série que j'ai le plus suivie quand j'étais gosse, quoi. Alors, le résumé pourri, en fait, il est très simple. C'est une série qui parle d'un lézard en fuite.
Ça, pour les autres, ça me rappelle qu'il y avait un
Denver,
pote.
Denver, le petit dinosaure.
Il y avait un pote qui avait son lézard qui s'appelait Jarod.
Exactement. C'est le caméléon.
Ah, le caméléon ?
C'est le caméléon, ouais. Ouais, non, le caméléon, c'est mon coup de cœur. Mais pas par choix artistique, c'est vraiment celui qui m'a le plus chopé quand j'étais ado, quoi. Mais en fait, en y repensant, j'adorais l'histoire de Jarod, parce qu'en fait, le fait à chaque fois d'avoir ce côté épisode indépendant, où à chaque fois il se fait jamais rattraper par le centre, mais le fait que Jarod et à chaque fois, chaque épisode, c'est autour d'une nouvelle identité, un nouveau métier du mec. En fait, chaque épisode, tu découvrais presque un genre nouveau, quoi. Tu sais, le mec, il était médecin dans un épisode, après il était pilote de Formule 1, après il était mécanicien, après il était détective. Donc en fait, à chaque nouvel épisode, tu rentrais dans un univers nouveau avec le personnage principal qui était ton fil conducteur, mais c'est comme si tu redécouvrais à chaque fois un univers. Donc moi, je pense que j'ai surtout été attaché à ça, quoi. C'est quel personnage il va incarner et quelle femme en détresse ou quel problème il va résoudre. Je pense je me rappelle à chaque fois il collectionnait un petit souvenir à la fin de chaque épisode, quoi. Je pense que c'était un objet représentatif du domaine d'activité. En fait, il te faisait découvrir des métiers, quoi. C'était sympa. C'est pas sorcier, en fait, en mode fugitif, quoi.
Vie ma vie de
jamais de changement de job à chaque épisode. Donc en fait, je trouve que la mécanique est sympa, quoi. De à chaque fois un job différent et à chaque fois un problème différent, soit une enquête, soit un crime, etc., où il va utiliser son intellect et son génie. Après, bon, le côté Mademoiselle Parker qui à chaque fois essaye de le traquer et qui arrive jamais à le trouver, c'était un peu répétitif, quoi. Mais bon, t'avais l'équivalent de l'homme à la cigarette aussi, t'avais avec le mec qui était en chaise roulante là, qui était avec un appareil respiratoire. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est un peu le même vibes que X-Files, quoi.
Il y avait aussi Profiler à la même époque.
Oui, à la même époque, il y avait Profiler. Je me rappelle même Profiler, j'ai pas regardé du tout, quoi. Mais le côté Jarod, je sais pas. Moi, j'avais adoré le personnage et le principe de la série, donc du coup, je l'ai suivi pendant trois saisons. Maintenant que je m'en rappelle, j'arrive pas vraiment à me rappeler du dernier épisode, mais je sais qu'il y a eu des films. Après, il y a un film en deux parties qui est sorti. J'ai pas vu d'ailleurs.
Pour ça d'ailleurs, moi je trouve cette série, Le Caméléon, moi j'ai vu qu'elle a démarré en 96, elle s'est terminée en 2000, du coup avec les rediffs et tout ça, moi dans ma tête je l'ai plus associée aux années 2000. Là je suis allé vérifier, je me suis dit mais elle a commencé quand en fait?
Mais en non, fait
elle a commencé
saisons.
En 96. Ouais, elle a commencé en 96.
Elle a duré trois saisons. Après les années 2000, c'est là où le téléfilm est sorti en deux.
Elle était pas mal rediffusée. Moi, je me souviens, j'ai l'impression, début des années 2000, en plus avec l'arrivée d'autres chaînes, c'est un truc que tu voyais beaucoup tourner, le Caméléon. Et du coup, j'ai dû vérifier, mais effectivement, c'est les années 80.
Mais je pense que ce genre de... Le Caméléon, ça fait des émules. Hein. Il y a eu beaucoup de séries qui sont inspirées du Caméléon, qui sont venues...
Sur un génie, quoi.
Ouais, il y a un génie qui est en fait acolyte d'une agence officielle, que ce soit l'FBI, la CIA ou quelque chose, qui les aide dans ce qu'ils font.
Genre Numbers,
mais déjà, le Caméléon, c'est une sorte de version moderne de MacGyver, en quelque sorte aussi. Le mec qui débarque un peu partout, qui résout les problèmes, qui protège les gens, bon, avec un côté beaucoup moins nié.
Ouais. Beaucoup moins nié, avec une backstory du personnage principal qui est dans le centre de l'intrigue.
En fait, j'aimais bien ce côté backstory où à chaque épisode, tu avais un flashback dans le centre et tu apprenais un peu plus, tu vois, sur sa relation avec Sidney, enfin avec Patrick Beauchaud, avec Parker quand elle était petite, ce côté un peu manipulation presque génétique d'enfants kidnappés, etc. Ça a donné même Stranger Things, hein, c'est pareil. Hein. Eleven, c'est aussi la même chose. Hein. C'est un enfant surdoué qui est dans un centre et qui s'échappe. Bah, Stranger Things, c'est ça. Ça a donné des trucs comme Mr. Robot aussi, tu vois, ce côté un peu personnage avec des pouvoirs intellectuels, un peu de génie, tu vois, qui arrive à résoudre des affaires. Et qui est en fuite.
Docteur, ouais, tu as parlé tout à l'heure de... Tu as dit que tu aimais bien dans Le Caméléon le fait qu'à chaque épisode il a un métier. Ça me rappelle Code Quantum.
Code Quantum, oui,
ouais.
Au chaque épisode, aussi, c'était.
Tu avais un côté. Il dans la peau de quelqu'un différent, ouais.
Vous savez ce qui est bizarre, c'est que. Bon, on a parlé d'X-Files avant et du Caméléon là. Vous savez, c'est quoi là? C'est quelle série qui est un mélange parfait des deux? Enfin, parfait, pas vraiment, mais on dirait que c'est l'inspiration des deux séries. C'est sorti en 2008. C'est Fringe, si vous vous rappelez.
Fringe, qu'est-ce que c'était bien à un moment. Fringe,
c'était pas mal, les trois premières saisons.
C'est avec l'acteur.
Par contre, ils ont galéré avec les deux univers.
L'intendant du Gros d'Or, non?
L'intendant, tout à fait.
Ouais, je me rappelle plus comment il s'appelait.
C'est un mélange des deux. Tu as d'ac le l'archétype du génie qui est de l'FBI, enfin, qui fait plusieurs métiers et tout. Enfin, il est scientifique, il est détective, il fait tout. Avec le côté,
les premières saisons étaient très très bien.
Et enquête. Ouais, c'est une très bonne série.
Les premières saisons étaient hyper cool.
Bah, pour ceux qui kiffent Le Caméléon et X-Files, si vous n'avez pas encore vu Fringe.
Fringe. Allez. Mais il y a vraiment les deux premières saisons, elles tapent très fort. Ouais, je suis entièrement d'accord.
Et pour le coup, je trouve que Le Caméléon est un bel exemple de traduction de titre réussi.
Oui, en anglais c'était The Pretender.
C'était The Pretender, mais je trouve que Le Caméléon est une bonne idée, quoi, de titre. Et ouais. c'est pas le titre pourri comme certains, quoi. Donc,
Le Prétendant.
Voilà. Le Prétendant. Ça c'est le Bachelor, ça. Et donc du coup, qui pour vous la série la plus représentative des années 90 à part X-Files?
C'était quoi le choix que tu as eu pour la plus représentative?
Nous avec Tannelier, c'était X-Files. Oui. C'était la première qui avait développé autant d'intérêt autour d'une œuvre et qui a développé un univers autour. Enfin, pour nous, c'est plus celle qui a eu le plus d'impact pour après, quoi. C'est quelque chose qui a changé dans le modèle. Et à part Friends aussi, bien sûr, qui est hors concours.
Il y a Law and Order.
Ah ouais, mais ça c'est quasi intemporel. Ouais. La première série est sortie en 91, je crois, avec Paul Sorvino et George Zunza, je crois.
C'est l'univers Dick Wolf, ça, non?
Ouais, voilà, sa première série. Enfin, il avait déjà fait d'autres séries dans les années 80, mais là, celle, on va dire, de l'univers New York, police, machin, truc, etc., c'est... La première, je crois, c'est 91, avec Paul Sorvino et je sais plus qui était son coéquipier.
Ah bah, ça a donné plein de spin-off après.
Ouais,
New York,
ça représente bien les années 90 à un moment. Après, c'est ce que.
Je suis d'accord.
Tout le monde a vu un épisode de Law and Order.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Ça, c'est sûr. Pas tout le monde a vu X-Files, pas tout le monde a vu Caméléon, mais je suis quasiment sûr que tout le monde a vu un épisode de Law and Order.
Voilà, et dès que ça passe à la télé, tu vois, dès que je vois le truc, merde, ça y est, je suis bloqué pour 45 minutes. C'est-à-dire, c'est la valeur sûre. Bon, c'est un peu parti en vrille ces dernières années, mais...
J'ai l'impression que Netflix a copié son jingle sur Law and Order, hein. Presque.
Oh, ouais.
Parce que Law and Order, c'était... Tadam.
Ouais, la première, c'était... Ouais, comment ça s'appelle?
Non, celui-là, c'est Pornhub, les amis, vous confondez.
Il y avait section criminelle, voilà, c'est section criminelle qui a commencé dans les années 90. À la fin des années 90, on a eu unité spéciale. Et il y avait l'autre avec les juges. Non, c'était celle-là qui était section criminelle, je crois que c'était la partie enquête puis la partie juge, c'est ça?
Je pense, ouais.
Et c'était laquelle qui était spécialisée dans les abus d'enfants?
Unité spéciale, celle avec Marisa Argitay et comment il s'appelle? Christopher Meloni.
Et Ice-T.
Ouais, aussi. Et des Jaguars, pas de blague sur Christopher Meloni et l'Italie, Giorgia Meloni, rien.
Attends, même pas.
Tu me déçois.
Tu sais, j'ai perdu la forme, mon ami.
Et toi, des Jaguars, toi aussi, Law and Order, comme la série représentative?
Non, ça, moi, c'est pas... pour moi, la série la plus représentative des années 90, c'est Alerte à Malibu.
Ah, parce que ouais,
à l'époque, je pensais que le monde était vraiment comme ça. Alors,
joli hommage,
c'est une série
à Chandler.
qui démarre en 89. Ah ouais. C'est une série qui démarre en fin 89 et après elle s'étale.
Pamela Anderson, c'était 89, non? Elle a commencé, ça a commencé avec Pamela Anderson.
La série,
Anderson,
elle commence en septembre 89, ouais. Donc on est vraiment fin des années, vraiment fin trimestre, quoi, des années 80. Mais non, c'est Alerte à Malibu. Moi, à l'époque, franchement, je pense... Ouais, c'est ça, T4. Bon, à l'époque, tu vois, je pensais que c'était ça, la vie d'adulte. C'est ça qui a été difficile aussi. Ça a été un traumatisme, je vous le cache pas. Parce que c'est pas ça du tout. Et je pensais que... Voilà. Moi, je pensais que le différentiel de développement entre nous et les États-Unis, c'était que Indiab ne ressemblait pas à Alerte à Malibu. Je pensais que c'était ça la mesure, l'IDH, l'indice de développement humain. Pour moi, on le mesurait là-dessus. Donc eux, ils étaient tout en haut et puis nous, on galérait, mais on y arrivait. Tu vois. Mais ouais, Alerte à Malibu, c'est avec tous ces...
Ils avaient un autre FPS aux États-Unis.
Ils avaient un autre filtre.
Vous avez vu la version tournée en Guinée équatoriale?
Non, vas-y.
Alerte à Malabo.
Pourquoi je rigole capitale. Déjà
Ça aussi, c'est une traduction marrante, quoi. Parce que ça n'a rien à voir avec Baywatch, quoi. Mais Baywatch, c'est assez descriptif, alors que Alerte à Malibu, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est plus excitant comme titre français, je trouve. J'ai plus envie de regarder Alerte à Malibu que Baywatch, si je vois les deux titres.
Pour information, c'est pas une série, un spin-off de la série Le Saint.
Oh,
joli.
Et juste, Alerte à Malibu, les amis, y a beaucoup de séries sur des métiers. Et il y a des métiers qui sont surreprésentés, genre les avocats, les médecins. Il y a beaucoup de séries sur eux. Mais une série sur des maîtres nageurs, il n'y en a pas eu tant que ça.
C'est clair. Mais c'est aussi une série... je trouve que c'est rare quand t'as la star d'une ancienne série culte des années 80 qui devient star d'une série culte des années 90. Parce que
David
t'avais Hasselhoff. K2000 dans les années 80. Mmh. Ah ouais.
Oui, c'est tout pas... à fait.
C'est rare comme phénomène quand même.
Tout à fait.
Généralement,
tout à fait.
Tu es étiqueté autour de ta série qui a fait ton succès, mais il a pu se reconvertir et il a autant sa place dans Alerte à Malibu que dans K2000, je trouve. Ça, c'était pas mal. Au début, ça me faisait un peu bizarre de voir Knight Rider, mais
il
n'y
avait
après,
pas un épisode un peu science-fiction. Moi, j'avoue que j'ai connu K2000 bien après. Non, à un moment, dans Alerte à Malibu, il y avait un épode un peu surnaturel.
Ah, oui. Ben ça,
Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose, je saurais pas te dire quoi, mais oui, il y avait un truc surnaturel, mais je saurais pas te dire quoi.
Ce qui était surnaturel, en fait, c'est la poitrine de Pamela Anderson, quoi.
Bah, c'était pas Mel Anderson, quoi. C'était les prémices de la télé 3D. Hein. Non, non. Bah, écoute, du coup, c'est bien. On a fait le tour, même en 3D. On a fait le tour de la question. Qui voudrait commencer par sa déception, son coup de gueule ou sa overrated, histoire de terminer l'épisode sur des notes un peu plus violentes.
Ah, moi, je veux bien. Parce que moi, il est prêt, il est argumenté, il est tout ce que vous voulez. J'aimerais juste, avant de commencer, dire que, voilà, j'aime cette série, et j'expliquerai pourquoi elle m'a déçu. Mais je l'aime beaucoup, mais ça reste pour moi la plus grande déception des années 90. Alors déjà, je vous donne un indice pour la retrouver. Le personnage principal, il est né en 1592.
Ah, merde, ouais.
Ah, ouais.
Alors, effectivement, il est né en 1592 dans les Hautes-Terres d'Écosse, et il est toujours de ce monde, il est immortel depuis 400 ans, et sa vie est un combat. Bref, vous avez les bails. Highlander. Parce qu'Highlander, sur les 2-3 premières saisons, pour moi, c'était la perfection. Ça mettait en place un lore, il se passait des choses, il y avait un vrai méchant, ouais. Et puis sur les dernières saisons, avec les problèmes qu'il y a eu, avec l'acteur principal qui apparaît un épisode chaque saison, je crois, un truc comme ça. Mais cette fin de série, et le fait que, en fait, Highlander n'ait jamais eu de chance meilleure que ça à la télé, pour moi, c'est une grande déception. Pour moi, il y avait beaucoup à faire avec le lore d'Highlander, et on aurait pu avoir une bonne série, et la fin, assez dure. Et j'essaye de la revoir à chaque fois, et franchement, mis à part quelques épisodes au début, du coup, il y a un gros dommage sur Highlander. Ça aurait pu être la série des années 90.
Tu vois, logiquement, le crossover Christophe Lambert-Adrien Paul, ça aurait dû être un événement. Tu vois. Mais vu que ouais. La série a chuté en termes de hype, et le film, en fait, il y avait un côté un peu Mortal Kombat 2, quoi. Christophe Lambert,
ouais, carrément.
Mais voilà, il y avait un côté série Z, alors que je suis d'accord, quoi. Les deux premiers épisodes, les deux premières saisons, le générique de Queen et tout, tu vois, il y avait quelque chose de surpuissant, quoi, c'était badass, quoi.
On était content, enfin, vu que tout le monde avait adoré le film, du moins le premier, on était content d'avoir du rab. Mais voilà, mais quelque part, tu vois, ça reste un peu dans les standards de l'époque. C'est une série à budget, on va dire, très moyen. Je pense qu'ils cherchaient, c'était juste un concept qui va hyper tout le monde. Et sachant que même aux États-Unis à l'époque, il n'y avait pas 100 000 chaînes de télé, je pense que ça faisait l'affaire. Donc, tu vois, on n'était pas encore dans les séries avec un vrai fond, un vrai scénario.
Ouais, ça passait, mais il est passé à ça d'être une série culte et il a pris une autre route, quoi. Une route inverse. Mais ouais. il a caressé de peu ce côté série culte.
Ouais, tu aurais abordé ça avec une écriture à la X-Files, ça aurait pu donner, tu vois, sans forcément plus de budget, d'effets spéciaux, etc., ça aurait pu donner un truc très bon.
Ouais, c'était juste l'écriture, quoi. Tu rajoutes pas en termes d'effets, c'est juste... Un peu mieux écrit, franchement, ça aurait donné vraiment un chef-d'œuvre.
Et vraiment, les dernières saisons, sans l'acteur principal, c'était difficile. Et après, c'est aussi une série aussi où apparaît Franck Dubosc.
Bah, oui, Franck ça, Dubosc, c'est vrai. C'est vrai, quoi.
Voilà. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez.
Non, mais c'est vrai, ça j'avais vu l'extrait, quoi.
Voilà, ça, c'est cadeau.
Tannelir, quelle serait ta déception ou ton coup de gueule ou overhypé
Enfin, c'est même pas la déception quoi que ce soit, c'est le genre de série que j'ai toujours détesté, qui m'ont jamais intéressé, etc. Je vais prendre une série qui représente un peu ça, c'était Beverly Hills 90012 ou je sais plus quoi. Mm-hmm. Vraiment un truc pour petit con superficiel. Tu vois, à l'époque, bon, j'étais clairement, on va dire, plus tout ce qui est imaginaire, etc. Et autant il y avait des séries, par exemple Beverly, comment ça va, Sauvé par le Gong, etc. C'était Parker Lewis et tout, c'était con et superficiel. Mais c'était léger, c'était, on va dire, ça essayait d'être marrant. Beverly, c'était vraiment, je sais pas, il y avait un côté tête à claque. Tu vois, des gamins qui dramatisent alors que, je sais pas, enfin, ils vivent dans l'opulence, dans l'insouciance. Tu vois, c'est un peu la caricature. De tout ce que j'aime pas chez les ados. Voilà, enfin, normalement, à l'adolescence, on est là pour se marrer, pour. Je sais pas, on s'intéresse à la science-fiction, à des univers fantastiques. C'est une période où on est curieux. Et là, tu voyais, pour moi, ça représente. Bon, c'était pas des ados, c'était plus des étudiants, mais ça représente un peu la frange un peu qui s'ajoute déjà adulte avant l'heure. Et ils font du drama avec rien, alors que leur seul problème, c'est d'avoir des bonnes notes et préparer leur avenir. Donc voilà, c'est un univers tête à claque. Et pour moi, ça représente tout ce que
ouais,
je
bah après, ça a pondu les Melrose Place,
toutes ces merdes comme
les
ça.
Les Gossip Girl, tout ça, quoi. C'est. Melrose Place, Beverly Hills. Enfin, c'est Beverly Hills qui a lancé surtout le truc. Hein. Après, la nana, elle est partie chez Charmed. Moi aussi, je ne suis pas très fan de ce genre-là. Donc, coup de gueule pour le genre. Lancé de Beverly pour Tannelier Provençal.
Alors moi j'ai commencé par dire que cette série à l'époque je l'aimais bien, mais avec le temps plus je la re-regarde, plus je me dis mais qu'est-ce que heureusement qu'on a grandi depuis Friends. C'est-à-dire autant c'est une série iconique, autant ça a changé beaucoup les codes des sitcoms depuis. Je la trouve légèrement surcotée par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Si tu compares avec Seinfeld, tu compares avec Frasier qui était excellente par rapport aux standards de l'époque. Il y avait plein de séries qui sont passées, qui ont été reléguées et n'ont pas eu autant de réussite à cause de Friends. Alors que Friends, tu la revois, tu dis... Franchement, côté humour, qui était la fonction principale de la série, bof, bof. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire que...
Bon, maintenant, quand tu la revois, tu connais tellement par cœur que...
Et moi, ça me dérange pas, ça.
Revu autant, j'ai pas revu autant que beaucoup de gens que je connais, mais les fois où j'ai tenté ça, j'ai pas esquissé un seul souvenir, j'ai pas pu.
Son principal défaut, c'est surtout les dernières saisons. Autant que franchement, à chaque fois que je la revois, je crois des 5-6 premières, voire 7, c'est avec plaisir. Voire même les 8 premières, ça reste potable. Les deux dernières,
oui, ça
m'a vraiment fait chier.
C'est moins culte.
Parce qu'à un moment, il y a trop d'inconscience.
Parce que aussi, les tropes se répétaient. Les tropes se répétaient, t'as le truc de Joey qui a toujours faim, qui partage pas, ça y est, tu le fais une fois ou deux fois, au bout de 10 saisons, ça fatigue. T'as le fait que Chandler, avec ses one-liners, c'était bien à un moment, mais tu vois, c'est bizarre de se dire que ça vieillit mal.
Il y a un truc marrant, à l'époque, en VF, il y avait, je crois pour les deux dernières saisons, des comédiens de doublage qui sont barrés.
Non, en français, il y en a trois qui sont barrés. C'était
Chandler,
Rachel
et
Joey,
je pense. Seulement.
Non, Chandler, Rachel, Joey. Ross, Monica et Phoebe sont restés. Parce qu'à partir de la saison 8, en fait, je pense que les acteurs se sont fait augmenter. Ils étaient payés $1 million par épisode. Du coup, les doubleurs français ont demandé aussi une augmentation et ça a été refusé. Donc, il y en a trois qui sont.
C'est une connerie monumentale.
Ouais, c'était une connerie parce que franchement, surtout Chandler, parce que c'était Emmanuel Curtil, sa voix, c'était la voix de Jim Carrey. Joey Chandler en voix française différente, ça avait du mal à passer. Hein.
Ça moi, je l'ai regardé d'abord
en français, évidemment. Donc, moi aussi, moi je l'ai regardé en français, c'est vrai que ça m'avait choqué. Quoi. Je suis jamais en fait trop rentré dedans. J'ai pu le redécouvrir quand je me suis retapé en anglais, mais pendant 3 épisodes, j'ai eu du mal moi à accepter les nouvelles voix. Quoi. C'était trop enregistré. Quoi. Ça a peut-être contribué au fait que les 3 dernières saisons étaient.
Voilà, c'est vrai. À chaque fois que je revois la série, tu vois, quand j'arrive à la fin, il y a toujours ce sentiment qui me dérange et je sens que je me force à la finir.
Quand tu arrives pas à la finir, moi, j'arrive pas à enchaîner les épisodes. C'est-à-dire que je la regarde. Vraiment avec
lassitude,
je peux plus.
Avec beaucoup de lassitude.
Je peux plus, c'est-à-dire
que
même pas, moi c'est pire que ça en fait. C'est-à-dire que pour moi maintenant, un épisode de Friends est limite un supplice.
Ah carrément.
Yeah.
Ah oui, vraiment parce que entre et c'est juste le passage du temps qui fait ça. Parce que à l'époque ça va, ça me faisait rire, mais maintenant que je revois ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, ça me ferait pas rire. Il y a eu tellement de séries qui ont réussi ça. Mieux à l'époque, bah, pêle-mêle, tu as le Prince de Bel-Air.
Ouais, ça, pour moi, ça reste toujours,
c'est toujours regardable pour moi maintenant. T'as Third Rock from the Sun, t'as Seinfeld. Seinfeld a plus tenu l'épreuve du temps que Friends.
Je suis d'accord.
Oh, ouais.
Mais Friends, moi, quand je la revois aujourd'hui,
t'as des sujets un peu.
Pas l'impression de mater une série. Hein.
Sauf qu'aujourd'hui, on la regarde en étant plus âgé que ne l'étaient les personnages à l'époque. Du coup, on a plus de recul, plus de maturité.
Moi, quand je me remets Friends, je suis d'accord.
On les juge d'une autre manière.
Je vois plus des vieux potes que je retrouve, quoi. Je
bah, c'est ça, en fait. Tu regardes des potes, en fait. Tu observes des potes agir.
C'est ça le truc, c'est que tu regardes des potes.
Prends un album photo. Prends un album photo.
Mais à part le côté nostalgie, il n'y a plus rien qui reste.
Moi, quand il y a un épisode qui passe ou quand je vois un extrait sur YouTube, je le regarde volontiers, quoi. Ça passe toujours, mais après, c'est vrai que tu, avec le recul, tu sais bon, pas. Bon, t'as quelques épisodes, t'as quelques sujets qui ont mal vieilli avec le politiquement correct d'aujourd'hui, qu'ils n'auraient jamais pu faire.
Mais c'est d'autant plus savoureux. Il y a par exemple l'épisode où il y a.
C'est un vrai marqueur de temps, quoi.
Mais il faut voir l'épisode où il y a le. Je crois que c'est dans la deuxième saison où il y a le patineur, là, le mari de Phoebe. Enfin, c'était marié avec un pote homosexuel pour qu'il ait une green card, qui était canadien. Et à un moment, tu vois, il y a une discussion entre les deux. Mais ça paraît cru pour un public, on va dire les médias d'aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'est un plaisir, quoi.
Oui, c'est un vrai marqueur de son époque, quoi. T'as des trucs qui te disaient que tu pourrais pas dire maintenant, quoi. Je comprends le côté déception, parce que c'est la même chose pour moi, quoi. Déception, c'était une série que je regardais presque sans faute dans les années 90, mais quand je l'ai revue, j'ai eu un gros coup de claque et de désillusion. C'était Lois et Clark.
Ouais, ça a vieilli, ça a pris cher.
C'est pas le cas de Smallville, par exemple, tu vois.
C'est ça, ouais. Smallville,
tu revois Smallville, ça tient encore. En tout cas, il y a une solide. Par contre, là, je me suis rematé quelques extraits de Lois et Clark. Ouh là là. Je veux dire, là, c'est la.
Smallville, cherche la date exacte.
C'était Superboy ou bien c'est deux séries différentes ou bien c'est la.
Non, c'est Lois et Clark.
Des titres différents. Clark, d'accord. Il y avait Smallville, aussi la série Super, bon, rien à voir.
Smallville, c'est 2001, donc elle a quelques années d'avance quand même.
Oui, alors que Lois et Clark, c'était 93. Mais, mais tu vois le truc, c'est d'un cheap.
Ouais, 93, en fait. Lois et Clark, hein.
Ouais, c'est putain. Mais là, tu revois, en fait,
c'est super naze.
C'est burlesque. Enfin, c'est vraiment presque du dessin animé. T'avais des extraits et des histoires, mais qui étaient tirés par terre. Moi, j'avais 12 ans à l'époque quand c'est sorti, quoi. Donc, toi, t'es content, quoi. Tu vois Superman. Mais tu revois le truc, là, tu as une douche froide, c'est pourri, quoi. C'est pourri. Après, voilà, c'est représentatif de son époque, mais voilà, t'as des séries comme Smallville, peut-être que c'est les années 2000, donc c'est un peu plus récent, mais ça a beaucoup mieux vieilli que Lois et Clark ou d'autres séries, tu vois. Même Flash, à la limite, tu peux le revoir, c'est marrant. Je pense que Lois et Clark, j'avais bien aimé, c'était en même temps, ça n'a rien à voir, mais c'était une série dont je voulais parler pour finir l'épisode, c'était Demain à la Une, j'aimais bien.
Oui,
ça passait en même temps que Lois et Clark.
Le petit chat et le journal.
Et le journal, ouais. Ça passait en même temps que Lois et Clark, je pense.
Il y a une série dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, est peut-être presque aussi représentatif des années 90 que X-Files, c'est Urgence.
Ah, qui a donné. J'hésitais, parce que Urgence, elle a donné naissance à toutes les séries médicales.
Ouais, elle a eu trop d'enfants.
En plus, franchement, c'était quand même.
Les Grey's Anatomy et compagnie.
C'était quand même assez bien écrit, il y avait des personnages intéressants. Moi, ce qui est marrant, c'est que dès le début, je supportais pas George Clooney. J'aimais bien les personnages de Eric Lasalle et Anthony Edwards. Et là, tu vois, il y avait une vraie histoire en parallèle de ce qui se passait au boulot. En plus, il y avait Kubiak aussi. Là, par exemple, tu vois, avec Eric Lasalle, il y avait son problème avec son fils qui était sourd. Il y avait l'autre, là, celle qui avait le sida et tout. Il y avait pas mal de problématiques qui s'emboîtaient et tout. Et c'est une série qui était bien foutue. Et...
Ah, il faudrait pas qu'il s'emboîte, en fait, s'il y en a qui a le sida.
C'est clair. Mais justement, je pense
que c'est. Non, mais par contre. Par contre, techniquement, c'était assez fort parce que c'était l'une des premières séries qui avait
tourné caméra à la main en live.
Plan séquence.
Presque.
Ouais, le plan séquence, tu sais, tu es sur un patient et tu es sur une urgence avec une équipe. Et puis à côté, tu as une civière qui passe et tu as la caméra qui la suit. Et tu passes à une autre équipe avec un autre cas. Et puis tu as un autre médecin, tu vois le truc, tu as un autre médecin qui passe. Il y avait des séquences qui étaient super bien réalisées, quoi.
Et moi, ça m'avait choqué.
Techniquement, c'était impressionnant.
Et c'est la première série qui m'avait vraiment choqué. C'était un moment quand il y avait un personnage qui, Omar Epps, qui jouait enfin un interne, à un moment il arrive, il était, je crois, un accident dégueulasse, je pense un truc, il était tombé dans le métro où il avait tenté de se suicider parce que le Eric Lassalle était dur avec lui. C'est le docteur Benton, c'est ça, non, Eric Lassalle. Bref, je sais qu'il avait engueulé, il était un peu dur avec lui, et je pense que... Et ça, tu vois, quand il est arrivé, je sais pas, ça m'avait choqué. Il y avait aussi la scène, quand le médecin...
Mais attends, je pose la question. T'as de dire la question. Est-ce que dans une série où il y a que des maladies, que des morts et tout, toi, ce qui t'a choqué, c'est quand il y en a un qui engueule un autre gars?
Non, c'est quand le mec arrive écrasé par le métro, quoi.
Ah, voilà, c'est ça. Je pensais qu'il était en mode, ça m'a choqué, il a engueulé. Pouf. Alors là, j'ai pas... Non. Ok, est-ce que je me dis...
Et aussi le mec là qui s'était coupé un...
Le truc, je rebondis là-dessus parce qu'il parle d'un truc, c'est-à-dire qui est assez juste. Moi, c'est un phénomène qui existe dans d'autres séries, hein, mais moi, dans Urgence, c'est ça qui m'avait marqué. C'est que les personnages de la série, il leur arrive une quantité de merde en très peu de temps, parce que entre déjà leur métier et puis ce qui leur arrive en tant que personnage, les divorces, les séparations, les maladies, les personnages qui meurent lors d'un déplacement parce qu'en fait il a quitté la série. Les gars, ils ont des vies, mais tellement de merde. Mais ça n'arrête jamais. Tu sais, ça n'arrête pas. Tu fais, mais c'est pas tenable. Faut libérer ces gens. Et vous voyez qu'ils souffrent. C'était ça qui était chaud avec Urgence. Parce qu'en fait, tu vois, il y avait ce rythme. Urgence, il faut un rythme effréné. Et au fur et à mesure, il a fallu développer les personnages. Et du coup, ce qui m'a fatigué à un moment, c'est qu'il y avait que du drama. C'est-à-dire, le gars ou la nana, il passe sa journée dans un boulot où, comme tu dis, les gens, il leur manque un bras. Ils n'ont pas les moyens. Il y a des problèmes sociaux. C'est catastrophique. Il rentre chez lui. Sa femme l'a quitté. Elle le trompe avec son frère. Son meilleur ami est mort pendant une mission humanitaire au Pakistan.
Ça, c'est top model.
Les mecs, ils ont des journées. Ouais, mais franchement, mais dans Urgence, les gars, ils ont des journées, tu fais oh chaud.
Tu peux faire ça, mais alors dans une maison de couture, quoi. Pas dans
les différents spin-offs, c'était un peu plus sur c'était un peu plus sur les relations. À partir de Grey's Anatomy et d'autres spin-offs, c'était. Enfin, des spin-offs et d'autres séries comme ça, ça insistait plus sur les rapports, en fait. Même sur.
Oh, bah, Grey's Anatomy.
Les relations.
Grey's Anatomy,
ouais, c'est Grey's Anatomy sur les relations.
C'est un soap-opéra version feuilleton télé, quoi.
Oh, ouais, c'est la télé des inconnus, quoi. Grey's Anatomy, quoi.
Il y avait Nip Tuck dans le genre médical qui était marrant, mais...
Vous vous rappelez, à l'époque de Nip Tuck, c'était un moment où il y avait des séries comme Nip Tuck, comme Six Feet Under, où c'était classe de dire « je regarde cette série ».
Ça, c'était des début des années 2000.
Ouais, ça te positionnait socialement et intellectuellement. Bon, ouais, je regarde Nip Tuck.
C'était pas l'époque de
Scrubs. Il y avait un truc,
Ouais, c'était donc les séries cool, quoi.
C'est 2015.
Ouais, exactement, il y avait des séries cool. Exact. C'était les séries d'Apple TV de la télé.
De l'époque, ouais.
je pense qu'on a cité tellement de séries qu'il serait bien maintenant juste qu'on fasse un peu. Tu vois, les mentions spéciales.
Bah écoute, mention spéciale. Une mention spéciale juste pour l'idée. Je trouve que c'est dommage qu'elle a. Juste parce qu'elle n'a pas non plus cartonné, mais je trouvais l'idée assez sympa. Mention spéciale pour FX Effets Spéciaux, tiens.
Oh oui.
Je trouve l'histoire quand même, enfin l'idée est pas mal, quoi, des spécialistes du cinéma à effets spéciaux qui aident les flics.
Ouais.
Je trouve l'idée suffisamment originale pour la saluer, quoi. Non, c'était pas mal, hein. Mais bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était cool, quoi.
Ouais, c'était pas mal comme série. Sinon, il y avait Oz. On n'a pas
c'était 98. Pour moi, Oz, tu vois, avec les Sopranos, même si soit sorti en...
C'est 97, je pense.
90-99, mais pour moi, c'est déjà les années 2000. C'est HBO qui débarque avec des séries bien écrites, etc. Donc,
alors moi, j'ai compté tout ce qui sort avant 99. C'est-à-dire...
Ouais, mais voilà, mais...
Dernière année, c'était 99. Il y a Stargate, qui est aussi une référence. Ouais, Stargate SG-1, qui est une référence.
MacGyver,
t'as le...
Bah, pour moi, une série légendaire des années 90, c'est Le Rebelle. On peut pas ne pas citer Le Rebelle. C'était Le Rebelle, quoi. Débardeur Harley Davidson, et coup de
pied. C'était Billy.
Qui se battait principalement à coup de pied, les amis.
Ah, c'était le petit frère de Texas Walker Ranger, presque.
Sinon, il y avait... Au niveau sitcom, il y avait deux sitcoms sympas, dont une était en univers partagé avec Friends. Il y avait... C'était... Comment ça s'appelle avec Ellen Hunt
De quoi? Ellen Hunt, c'était...
Ouais, il y avait Dingue de toi.
Dingue de toi, ouais. C'était avec Dharma et Greg. C'était même, même style, quoi. Un couple, la vie de couple.
N'oublions pas de citer Dr. Quinn, femme médecin.
Ouais, aussi.
C'est une série.
Il y avait aussi...
les années 80. Cette série, juste une parenthèse sur cette série, Dr. Quinn, femme médecin, c'est une série géniale parce qu'elle explore timidement l'espèce de fantasme féminin. Parce que le personnage, elle est entourée de beaux gosses ultra virils. Elle la rapporte tout le temps très timide avec, mais tout le long de la série. C'est très chelou.
En fait, c'est un joli mélange entre Urgence et La petite maison dans la prairie.
Ah bah, je peux te dire que l'Amérindien,
l'Urgence,
elle le voulait dans sa prairie.
Bah, on le retrouve après dans Le Rebelle, hein, c'est le pote... du rebelle.
Il y avait aussi, comment ça s'appelle, Une fille à scandale avec Théa Léoni, la femme de Duchovny, enfin, ou l'ex-femme, ou je sais pas quoi.
L'ex-femme,
je sais pas si vous en souvenez. Ça, c'était sympa aussi, comme, en fait, au niveau de sitcom, dans l'ambiance un peu, enfin, c'était pas vraiment Friends, mais tu vois, l'ambiance new-yorkaise, etc., il y avait ça, c'était genre, s'il y a des trucs à revoir, par exemple, pour, comme on est toujours dans l'hommage à Matthew Perry, Chandler Bing et tout, je pense que si on a aimé Friends à l'époque, Dingue de toi et Une fille à scandale qui se rapproche un peu de l'ambiance, même si c'est des contextes différents, ouais, avec peut-être des personnages un peu plus âgés, mais ça serait, par exemple, si on avait des recos, moi, ça serait ça.
Un intermédiaire entre Seinfeld et Friends, quoi. Ça reste autour de deux personnages avec des personnes qui orbitent. Mais ouais, Dingue de toi, ça passait bien. C'est bizarre, personne n'a parlé de Sliders.
Ah oui, putain. Alors ça, c'est un truc que j'avais marqué.
J'ai complètement zappé Sliders, ouais. C'est vrai.
Avec Gimli.
Bon, bah, je pense qu'on a fait. On va pas toucher au dessin animé des années 80 parce que sinon on est parti encore pour deux heures. Mais ouais, bah écoute, on a fait une belle rétrospective des années 90, assez rapide, mais qui donne un peu le là à l'occasion de cet épisode de la liste de Chandler. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de regarder ou pas certaines reliques télévisuelles des années 90. Donc voilà, on va conclure par le mot de la fin. Tannelir, vas-y, dis-nous un peu ce qui arrive dans ta vie. Est-ce que tu as envie de promouvoir quelque chose ou juste dire une connerie?
Non, juste une connerie. Voilà, j'ai dit une connerie.
Très bien. Provençal, est-ce que tu veux suivre le pas de Tannelir ou tu as quelque chose à nous dire?
Ah, moi j'ai une chose à dire. Jouez à Skyrim. Vous n'aurez plus de vie comme moi.
déjà Gore.
Ah, moi je dirais Twin Peaks. Parce qu'on en a pas parlé. Et que c'est revenu bien récemment. Voilà, donc Twin Peaks.
Voilà.
On va supposer qu'il n'a rien à dire. Alors,
non, anecdote vraie. Anecdote que je partage avec vous par rapport à Twin Peaks. Ma mère regardait la série, mais mon père voulait pas regarder parce que ça lui faisait peur. Et ma mère me faisait regarder la série avec elle pour pas être seule. J'étais beaucoup trop jeune.
Et moi, je vais déroger à la règle, même si j'ai dit qu'on parlait pas de dessin animé, mais on a parlé de Xena et d'Hercule tout à l'heure. Petite mention spéciale à Conan l'aventurier. Voilà.
Conan l'aventurier.
Arkrom, le métal étoile.
On va pas rebondir là-dessus, mais c'est peut-être un sujet pour le prochain épisode.
Exactement, un petit teaser. Ouais. Donc voilà, j'espère que, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode qui, j'espère, ne va pas se faire attendre comme celui-là. On va tout faire pour. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien. Et puis, faites comme Satan Petit Cœur, sortez couvert. Ciao, ciao.
Ciao.
Au revoir.